Bonjour à tous. Charlotte Faïs, donc je suis responsable de l'offre handicap à la direction de l'autonomie à l'ARS Île-de-France. Et je suis très heureuse d'ouvrir cet après-midi régional avec vous sur les groupes d'entraide mutuelle. Ouais, super. C'est mieux pour moi. Alors, pour introduire cet après-midi, je voulais poser mon propos en l'introduisant et en revenant sur, en rappelant l'ambition du gouvernement en faveur de l'offre pour les personnes en situation de handicap. Celle-ci est extrêmement élevée et elle constitue une priorité du quinquennat. Pour la première fois, on a une secrétaire d'État aux personnes handicapées qui est positionnée auprès du Premier ministre pour irriguer l'ensemble des politiques publiques en faveur du handicap. C'est un signal qui est extrêmement important, qui est très attendu et dont on va profiter. Les objectifs annoncés par le gouvernement ont une visée immense. Il s'agit de changer le regard de la société sur le handicap, pas moins, de vaincre les appréhensions et de lever les obstacles à l'autonomie de la personne. Dans ce sens, nous poursuivons en Île-de-France un modèle qui est résolument inclusif de transformation de l'offre médico-sociale et qui est articulé pour les adultes, parce qu'évidemment, on a tout un plan d'action qui concerne également l'enfance et l'inclusion des enfants à l'école. Mais pour les adultes, on a trois chantiers majeurs, en dehors de ce qu'on fait avec les établissements médico-sociaux, qui sont trois chantiers qui sont complémentaires les uns des autres. Le premier, c'est d'accompagner le développement de l'habitat inclusif, avec cette année 8 dispositifs nouveaux et 500 000 euros investis. Le développement de l'emploi accompagné, c'est une mesure nouvelle qu'on a lancée l'année dernière dans toutes les régions et sur laquelle on va apporter 3 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir élargir cette initiative et qu'elle bénéficie au plus de personnes possible. Et puis la troisième, c'est le développement des groupes d'entraide mutuelle pour créer, pendant la période du programme régional de santé numéro 2, 40 groupes d'entraide mutuelle supplémentaires en Île-de-France. Et on investira, en plus des crédits que nous délègue la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 3 millions d'euros pour le développement de ces groupes. Alors pourquoi est-ce que ça nous semble être tellement essentiel d'investir sur ces groupes d'entraide mutuelle ? Pour nous, c'est un vecteur extrêmement important d'amélioration de la vie sociale des personnes. Et à travers cela, c'est un soutien possible vers l'emploi, vers un habitat autonome, vers une vie indépendante. Pour nous, soutenir les groupes d'entraide mutuelle et ce qu'elles apportent aux personnes va vraiment permettre aussi d'alimenter les autres projets et on pense que ça contribue à un mieux et une autonomie plus grande des personnes handicapées. Et c'est pourquoi je voudrais m'attarder un peu sur la notion d'empowerment avec vous. Comme chacun le sait, un handicap, qu'il soit physique ou psychique, entraîne souvent une stigmatisation, une difficulté d'accès aux équipements de droit commun, une perte de confiance en soi. Et puis la parole de la personne en situation de handicap est encore insuffisamment prise en compte, et ça, ça nous revient extrêmement fréquemment. La notion d'empowerment, qui est apparue récemment en France, est un processus décisif dans une logique d'inclusion. Elle désigne l'accroissement de la capacité d'agir de la personne en situation de handicap ou malade via le développement de son autonomie, la prise en compte de son avenir et sa participation aux décisions le concernant. Ce concept d'empowerment s'est vu renforcé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ainsi que par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui propose d'une part une définition du handicap psychique et crée d'autre part les groupes d'entraide mutuelle. Donc ces GEM, ce sont des dispositifs cruciaux pour faire progresser cette notion d'empowerment. Le GEM, mais ça vous le savez par cœur, puisque pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes des adhérents des GEM. C'est une association de membres qui est constituée entre personnes ayant des troubles de santé similaires. Et le GEM offre ainsi un espace pour se soutenir mutuellement dans les difficultés rencontrées. Donc le GEM, c'est d'abord souvent une première étape de resocialisation. Et au sein de ces groupes, les personnes peuvent échanger, reprendre confiance en elles, notamment en termes d'insertion sociale. Les GEM contribuent à rompre l'isolement, donc, à stimuler la prise d'initiative. Et grâce aux activités proposées, à son ouverture sur la cité, Le GEM est un outil d'insertion sociale, d'estime de soi et de développement de la capacité d'agir pour tous ceux qui y participent. Les GEM reposent sur la philosophie de la paire aidance, c'est-à-dire du soutien par les pairs qui rencontrent des difficultés similaires et sont donc à même d'apporter un soutien, une écoute, un partage d'expériences autour des troubles et du parcours de chacun. La paire aidance part aussi du principe que chaque personne est experte de par son expérience de la maladie. Et à travers ce partage, c'est la sortie de l'isolement qui est recherchée, la reconstruction du lien social, et un mieux-être pour les personnes. L'entraide mutuelle crée ainsi une dynamique positive et participe à l'amélioration de la santé globale de la personne qui va au-delà de sa pathologie. En 2013, en Île-de-France, nous disposions seulement de 51 groupes d'entraide mutuelle, dont 45 pour les personnes avec un handicap psychique et 6 GEM pour les personnes avec un traumatisme crânien. À ce jour, en 5 ans, et parce que l'agence portait déjà une politique volontariste de développement des GEM, le nombre de GEM trauma crânien a plus que doublé. Le nombre s'élève aujourd'hui à 13 groupes d'entraide mutuelle. Concernant le handicap psychique, nous en comptons aujourd'hui 61 en Île-de-France, soit une augmentation de plus d'un tiers en 5 ans. Je vous l'ai dit, l'ARS va poursuivre ce développement et très clairement l'amplifier dans les 2 années qui viennent. À la fois en nombre de groupes d'entraide mutuelle pour la couverture la plus exhaustive des territoires, mais aussi par un élargissement à d'autres publics. Et vous le savez, la stratégie nationale pour l'autisme a ciblé que les groupes d'entraide mutuelle allaient être élargis au public des personnes avec autisme. Ces possibilités seront donc intégrées dans l'appel à candidature que nous allons lancer dès 2019 pour le développement de nouveaux groupes d'entraide mutuelle. Voilà, donc nous anticipons en Île-de-France aussi l'obtention de nouveaux crédits, mais encore une fois, nous y mettons des ressources supplémentaires sur les financements de l'agence au niveau régional, qui en très grande partie sont orientés pendant la période du PRS sur le développement de l'offre pour les personnes en situation de handicap. Nous avons l'ambition, à l'issue du PRS 2, d'avoir plus de 100 groupes d'entraide mutuelle créés en Île-de-France. Et nous comptons sur leur apport pour les adhérents, pour stimuler également toutes nos politiques vers l'emploi et vers le logement autonome. Moi, je crois vraiment que les groupes d'entraide mutuelle peuvent servir de catalyseur pour l'autonomie de la personne et pour les accompagner aussi vers l'emploi, vers le logement, dans leur vie autonome. Je pense que justement, les présentations qui vont suivre auront tout lieu de montrer l'impact positif que les GEM ont déjà eu en Île-de-France. Je vous remercie.
Merci Charlotte. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Oui. Ou des interventions ou des commentaires?
Oui, bonjour, je suis Sophie Lédé, je suis directrice d'une association, on est gestionnaire d'un GEM. C'était juste la question par rapport à l'appel à candidature de 2019 dont vous aviez parlé. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ou pas? Enfin...
Alors non, on n'en sait pas beaucoup plus. Ce que je peux vous dire, c'est les crédits qu'on va investir. On a 3 millions sur la période du PRS 2 pour soutenir le développement des groupes d'entraide mutuelle. L'année prochaine, je peux engager 1 500 000 euros pour ce développement. En même temps, on peut engager aussi davantage de ressources si des groupes d'entraide mutuelle sont planifiés sur 2020 et dans ces cas-là, aller jusqu'à l'enveloppe de 3 millions d'euros. Maintenant, sur la couverture territoriale, sur les orientations par type de public, aujourd'hui, ce sont des choses qu'on n'a pas arbitrées. Simplement, ce qui est bien entériné, qui peut aussi appeler des réactions aujourd'hui dans la salle, c'est qu'on anticipe sur la stratégie nationale de l'autisme en suivant évidemment les préconisations qui sont celles affichées dans cette stratégie pour ouvrir dans le développement des groupes d'entraide mutuelle un nouveau public qui sera les personnes avec autisme. L'enveloppe, c'est pour la totalité des groupes d'entraide mutuelle. Encore une fois, c'est hors, y compris autisme, dans l'attente. Peut-être que la stratégie nationale pour l'autisme fléchera des crédits dédiés. Dans ces cas-là, on fera une fongibilité d'enveloppe et on saura récupérer les crédits pour que ça bénéficie à d'autres. Mais dans cette attente, et parce qu'on ne prend rien à la stratégie nationale de développement des GEM, avec les crédits de la CNSA, cela reste fléché comme ils doivent l'être. Les crédits qu'on met du fonds d'intervention régional, en revanche, peuvent être ouverts beaucoup plus. Ça rajoute et en aucun cas ça ne prend.
Oui, bonjour, Steph Bonobrier, je suis personne autiste. Je suis venue ici avec, avec deux de mes pairs. On est effectivement en train de travailler sur un projet de GEM. J'avais une question en fait par rapport au cahier des charges. C'était pour savoir, j'ai bien entendu déjà ce matin qu'il y avait un certain nombre de questionnements sur la façon d'accompagner, de gérer des GEM en fonction des publics accueillis. Or, dans le cahier des charges tel qu'il est présenté aujourd'hui, apparaît à la fois de la souplesse et en même temps, on voit bien qu'il y a des cases. Alors déjà, la case autisme, elle n'y est pas, puisque c'est explicitement écrit dessus que les GEM sont réservés aux personnes avec traumatisé crânien et handicap psychique. Donc, est-ce qu'il va y avoir des travaux qui vont être menés pour faire évoluer le cahier des charges ? Et c'est vrai que dans l'autisme, on est forcément confronté d'emblée à une grande hétérogénéité des profils et des fonctionnements des personnes accueillies. Donc, quand on parlait ce matin de répondre aux besoins des personnes, d'adapter la formation aussi, comment est-ce que va être inclus cette nouvelle individualisation pour répondre à une population plus diversifiée aujourd'hui au niveau des GEM?
Alors, votre question est très pertinente, et parce qu'elle est trop pertinente, je vais laisser la CNSA répondre.
Merci. Je voudrais juste savoir si ma collègue de la DGCS est arrivée dans la salle pour m'aider à être encore plus pertinente dans ma réponse. Eh bien non. c'était pas une question pour vous faire rire, c'est que les aspects liés aux questions réglementaires sont travaillés par la DGCS et c'est la DGCS qui est garante de ces questions-là. Donc je ne vais pas pouvoir vous répondre complètement. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a effectivement une réflexion qui est menée sur la manière la plus intelligente de répondre à cet élargissement en termes de texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un cahier des charges qui dit en effet que les GEM sont consacrés aux personnes ayant un traumatisme crânien ou des troubles psychiques. Sur la forme que ça va prendre, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui car je n'ai pas la réponse. S'il s'agira d'un nouveau cahier des charges ou d'une adaptation du cahier des charges existant, je ne me permettrai pas de répondre à la place de mes collègues. Donc ça ne répond pas complètement à votre question. Ce qui est sûr, c'est qu'on a totalement conscience du fait qu'il va falloir faire quelque chose dans ce domaine pour que chacun puisse avoir la réponse dont il a besoin en termes d'accompagnement.
D'accord. Juste une dernière précision. Je vous remercie. C'est juste, par contre, en tout cas, nous, dans le cadre du GEM que l'on souhaite monter, et de manière générale, dans l'inscription qu'on peut avoir dans le champ du handicap, je pense que c'est essentiel de pouvoir se servir et bénéficier de ce qui existe déjà et de ne pas rentrer dans des clivages de handicap, comme on le voit très souvent, pour sortir peut-être d'une dichotomie de diagnostics médicaux versus des diagnostics fonctionnels. Je crois que les personnes en situation de handicap, de manière générale, même si après chacun a sa couleur, a sa spécificité, il y a un certain nombre de besoins dans vraiment la vie quotidienne qui se retrouvent. Et c'est vrai que je trouve toujours très dommageable que chacun recommence à zéro de son côté sous prétexte qu'il y a une étiquette plutôt qu'une autre.
Solange Mistral, adhérente et présidente du GEM de Gap dans les Hautes-Alpes. Vous nous avez annoncé que la politique actuelle du gouvernement était de changer le regard, de déstigmatiser. Alors, pouvez-vous nous expliquer le décret du 23 mai 18 qui demande à ce qu'on fiche les malades sans consentement sur les données personnelles, sur les données médicales ainsi que sur les données juridiques? Ce décret me paraît très dangereux, personnellement.
Alors, est-ce que la collègue du National est arrivée? Moi, je vais être en difficulté pour vous répondre là-dessus, d'autant plus qu'en étant très franche, ce décret, moi, je ne l'ai pas bien en tête. Donc, c'est une identification des personnes avec des troubles psychiques. Bon, il y a peut-être eu des événements dangereux qui ont appelé, je ne sais pas. Pour les soins sans consentement ? Bien sûr. Alors, moi, je l'entends très bien et j'entends la force de votre réaction et je la comprends. Ne connaissant pas ce décret, je pense qu'à extrapoler sur une tentative de réponse, je serai de toute façon à côté. Je pense que si vous avez un premier retour qui est partagé entre les associations représentatives, portez cette parole. Au demeurant, je ne saurais pas opposer ce décret ni mettre en porte-à-faux la stratégie nationale en faveur de l'inclusion, qui est extrêmement manifeste et qui se traduit par des orientations politiques qui sont extrêmement suivies, qui sont appliquées, qui sont financées. Alors évidemment, c'est très à côté de ce décret que vous parlez, mais quand on parle de la stratégie d'inclusion, nous, on parle aussi beaucoup de sortir des institutions. La transformation qu'on nous demande d'accomplir partout en France, et je parle pour l'Île-de-France, c'est d'être davantage sur une offre de services, d'être dans la cité, de réfléchir avec les acteurs pour apporter ces réponses-là. Donc, la demande était de faire remonter au niveau national l'indignation des fédérations. Alors, moi, je peux tout à fait faire remonter une note d'alerte. Je pense qu'après, il est bon, et que les fédérations, vous savez très bien le faire, d'écrire. Vous pouvez écrire au directeur général de l'ARS, vous pouvez écrire au niveau national, et vous pouvez poser le débat en Île-de-France et sur bien d'autres sujets et d'autres thématiques. Ce ne sont pas du tout des craintes qui arrêtent habituellement les fédérations représentatives pour pouvoir aborder très franchement avec nous les sujets qui sont compliqués et nous donner aussi des éléments d'échange avec le cabinet de Madame Cluzel, notamment.
Merci Madame, je pense que le message a été entendu. Je vais passer la parole à une autre personne.
Oui, vous me connaissez, Claude Finkelstein, je vais me mettre debout quand même. Pour répondre à votre la corde que vous avez tendue, c'est déjà fait vis-à-vis entre l'UNAFAM, la FNAPSI et d'autres, la conférence des présidents des CME, des CHS et j'en passe. L'ADESM, ça a été déposé auprès de Madame Buzyn et donc ça, c'est en cours. Ça, c'est fait au plus haut niveau, donc il n'y a pas de souci. Non, moi, mon interrogation, ce n'était pas ça. J'ai participé en tant que présidente de la FNAPSI à l'époque déjà, et puis avec Advocacy et d'autres, on a participé à la loi du 11 février 2005. Et la création des groupes d'entraide mutuelle, c'était bien pendant la loi du handicap. On est bien d'accord, ça a créé la CNSA et ça a créé les groupes d'entraide mutuelle et la reconnaissance du handicap psychique. C'est pour ça. J'ai vu avec un... Alors, évidemment, nous, les groupes d'entraide mutuelle, le handicap psychique, disons que nous avons toutes les pathologies dedans. Bon, j'ai vu déjà d'un œil un peu surpris à l'époque la création des GEM traumatisés crâniens, parce que, bon, handicap, c'était des groupes d'entraide mutuelle pour pallier au handicap, pour permettre l'entraide. D'ailleurs, c'est un pléonasme, permettre l'entraide mutuelle. C'était une passerelle entre le moment où on était soigné à l'intérieur d'un hôpital et le moment où on irait dehors complètement. C'est vraiment et puis un va-et-vient. Passerelle, c'était pour le va-et-vient. Bon, on s'est posé la question. Bon, ça s'est passé, c'est comme ça. Bon. Mais alors maintenant, des groupes d'entraide mutuelle d'autistes. Alors, chez moi, ils ont posé la question quand je suis revenue, parce qu'on le sait depuis qu'il y a le plan autisme avec Madame Compagnon, on a bien appris qu'il y aurait des groupes d'entraide mutuelle pour l'autisme. Chez moi, ils ont dit, ben, écoute, Claude, il faut que tu demandes des groupes d'entraide mutuelle pour les bipolaires, des groupes d'entraide mutuelle pour les schizophrènes, des groupes d'entraide mutuelle, puisqu'on dit pour les autistes, alors on n'aime pas dire qu'on est bipolaire, enfin, mais bon, voilà. Et puis des groupes d'entraide mutuelle pour les TOC. Et puis qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre, encore autre chose. Alors j'ai dit, bon, là, je crois qu'il va falloir vraiment, je regarde Madame Boirec, va falloir vraiment trouver une solution. Je pense qu'il faut parler des groupes d'entraide mutuelle en général. Voilà. Alors, s'il y a des particularités dans vos documents que vous nous donnez en disant, bon, là, éventuellement, on accepte que le gestionnaire soit le même que le parrain, c'est une chose. Mais il faut arrêter de faire des groupes d'entraide mutuelle avec une couleur, quoi. Je ne vais pas me balader avec un chapeau rouge parce que je suis chez les autistes et le lendemain me balader avec un chapeau vert parce que je suis chez les bipolaires. Il faut arrêter. Hein. Voilà, je crois qu'il va falloir faire attention. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, on refait les groupes d'entraide mutuelle, c'est pour pallier au handicap. Ça fait partie de la loi du 11 février 2005 et c'est bien parfois de rappeler d'où on vient. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bonjour, je m'appelle Elsa, je suis autiste et donc je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Claude Fickenstein. Je fais partie du groupe d'entraide mutuelle Le Bon Cap à Lannion. Je suis donc présidente et je suis autiste. Je voulais simplement rebondir et dire que effectivement, je pense comme vous qu'il faut arrêter de cloisonner parce que ça marche très bien, ça fonctionne très bien pour ce qui est de notre groupe d'entraide mutuelle. Il y a de tout et on est pas mal d'autistes dedans et ça fonctionne très très bien. Maintenant, j'aurais aussi une question par rapport à ce que vous nous annonciez tout à l'heure sur les emplois accompagnés. Qu'est-ce que vous entendez par là et avec quel budget? Et aussi, donc, puisque vous parliez des gemmes autistes, est-ce que au niveau de la subvention, qu'est-ce qui est prévu ou est-ce que c'est la même?
Alors, l'emploi accompagné, c'est un dispositif nouveau hein, qui a été introduit l'année dernière dans toutes les régions. Donc, chaque région avec un financement différent, bien sûr, en fonction de sa population. Mais chaque ARS hein, a lancé des dispositifs d'emploi accompagné hein, qui permettent d'accompagner dans le milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Donc là, l'idée de l'emploi accompagné, c'est d'être sur quatre niveaux d'accompagnement. Un premier qui est d'évaluation, un second qui, je crois, est de préparation du projet professionnel, le troisième sur la recherche d'emploi, avec à chaque fois toute une partie un peu d'accompagnement à la vie sociale, d'aide sur, au transport, aux besoins de la personne qui vient en plus de la recherche d'emploi qui intervient. Et puis le dernier niveau de l'emploi accompagné, c'est d'être sur le maintien dans l'emploi, ce qui n'existait pas dans les dispositifs qui avaient été précédemment lancés. Donc c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup en Île-de-France, et en plus des financements nationaux qu'on a reçus, qui évidemment étaient bien supérieurs à ceux des autres régions, parce que l'Île-de-France est une région importante, on va investir pour la région 3 millions d'euros supplémentaires. Donc on a un appel à candidature qui là est clos. On analyse les dossiers qui ont été déposés pour élargir ou renforcer les dispositifs qui ont été sélectionnés en Île-de-France l'année dernière. Donc nous, avec les crédits qu'on avait pour lancer les dispositifs, et on voulait avoir une couverture sur les 8 territoires, on a travaillé avec les MDPH et en fonction des orientations majoritaires dans ces MDPH vers l'emploi en milieu ordinaire, on a choisi en 2017 d'avoir un premier focus sur les personnes en situation de handicap psychique. Pour dire, c'est elles qui ont les orientations principalement vers le milieu ordinaire, elles bénéficieront prioritairement de l'emploi accompagné. Encore une fois, parce qu'on avait des petites files actives. Donc ensuite, les dispositifs se sont lancés, ça c'était notre cadrage initial. Maintenant, avec les MDPH, on approche mieux aussi la sélection, l'orientation des personnes vers le dispositif, parce qu'il y a toute une kyrielle entre les AT, le milieu ordinaire, l'UEROS, dans les possibilités. Donc c'est pas facile quand on a un nouveau dispositif à lancer de le faire de la manière la plus juste. Et donc on a retravaillé avec les MDPH et toutes sont maintenant d'accord pour que dès maintenant, les orientations soient élargies à tout type de handicap, simplement en se rapportant aux besoins spécifiques qui font qu'une personne bénéficiera pleinement et justement de l'emploi accompagné plutôt que d'un autre dispositif d'appui. Voilà.
Bon, je vais jouer la vilaine montre. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Et puis, parce qu'on a une après-midi chargée. Merci, Charlotte.